une question dont la réponse en surprendra sûrement quelques-uns. Y a-t-il présentement des signes précurseurs de l'Antéchrist? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui ouvrira nos yeux, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a de très bonnes questions à poser au livre de Daniel aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'Antéchrist. Allons voir ce que nous pourrons apprendre à son sujet alors que nous recevrons les réponses aux questions que voici. Est-ce que l'Antéchrist aura égard au Dieu de sa religion? Qu'est-ce que l'Antéchrist préparera en secret? De quelle manière cherchera-t-il à créer l'unité? Quelle sorte de régime établira-t-il? Qui honorera-t-il? Contrôlera-t-il l'économie mondiale? Y a-t-il quelqu'un qui pourra l'anéantir? Y a-t-il présentement des signes précurseurs de l'Antéchrist? Y a-t-il des antéchrists dans le monde en ce moment? Qu'est-ce que les croyants doivent faire afin de mener une vie paisible dans ce monde? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly est sur le point de répondre à chacune de nos questions par les Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on est en sécurité grâce à toi. En sécurité contre le diable, contre l'Antéchrist, contre toute forme de gouvernement qui pourrait s'opposer à toi. On est en sécurité avec toi et on te demande de toucher nos cœurs par ta parole aujourd'hui, afin qu'on reçoive justement la force contre toute espèce de mal. Ta force à toi, par ton esprit, touche nos cœurs aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé la section dite historique du chapitre 11 du livre de Daniel. Elle est appelée ainsi parce que les prophéties de cette section sont maintenant accomplies. Nous avons établi un lien entre les prophéties et des événements historiques. Encore une fois, nous avons confirmé l'exactitude de la prophétie biblique. Nous avons vu que Antiochos Épiphane était un menteur et un séducteur. Nous devons nous méfier de telles personnes. Cet homme est une image de l'Antéchrist. Cependant, l'Antéchrist sera si méchant qu'il fera paraître Antiochos Épiphane, un roi cruel, comme un enfant de cœur. Nous avons souligné le fait que nous ne pouvons pas compter sur les hommes pour régler les conflits entre les nations. En effet, les chefs d'État et les ambassadeurs se réunissent en conférence, mais ils se mentent les uns aux autres et ils signent des ententes qu'ils n'ont pas l'intention de respecter. C'est ce que faisaient les rois de Syrie et d'Égypte au temps d'Antiochos Épiphane. Nous avons introduit la section prophétique du chapitre 11 et nous avons fait connaissance de l'Antéchrist. Les noms de cet homme montrent qu'il sera méprisable, cruel, menteur et séducteur. Cet homme manifestera sa véritable nature dans la deuxième partie de la grande tribulation. De plus, nous avons vu que son orgueil contraste avec l'humilité du Seigneur Jésus. De plus, l'Antéchrist sera un homme obstiné qui ne fera que ce qu'il voudra, alors que le Seigneur Jésus a accepté d'accomplir la volonté de son Père Céleste. Nous avons aussi dit que nous avons les politiciens que nous méritons, car nous choisissons des chefs qui nous ressemblent. L'Antéchrist plaira aux hommes dont les pensées charnelles ne seront pas conformes à celles du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison qu'il sera populaire dans la première moitié de la grande tribulation. Nous continuons notre examen de l'Antéchrist à partir du verset 37 du chapitre 11 du livre de Daniel. Verset 37. « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. » Il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. L'Antéchrist ne craindra pas aucun dieu. Il n'aura égard ni au dieu de ses pères. À cause de cet énoncé, certains pensent que l'Antéchrist doit être un Israélite. Cependant, cet énoncé pourra s'appliquer à un protestant, un catholique ou une personne de n'importe quelle autre religion. Quelle que soit son origine, il n'aura pas égard au Dieu de la religion dans laquelle il aura été élevé. Nous avons de nombreux exemples de cela. Smith, le président de l'Association américaine pour l'avancement de l'athéisme, était le fils d'un pasteur méthodiste. Joseph Staline a déjà étudié dans un séminaire théologique. Comme cela a déjà été dit, il faut deux hommes pour accomplir les prophéties au sujet de l'Antéchrist. Nous les voyons tous les deux au chapitre 13 de l'Apocalypse. Le premier doit être un chef d'État qui viendra probablement du territoire grec de l'ancien Empire romain. Il n'est absolument pas nécessaire que cet homme soit un Israélite. La deuxième bête qui se manifestera est un chef religieux et il imite le Seigneur Jésus. Je présume qu'il sera un Israélite. L'Antéchrist fomentera une rébellion contre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Quelle femme juive n'aimerait pas devenir la mère du Messie? Non seulement est-ce que le Seigneur Jésus sera rejeté, mais il deviendra l'ennemi à combattre. L'Antéchrist fomentera une rébellion contre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 2 exprime bien l'idée. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Le psaume 2, les versets 2 et 3. L'Antéchrist créera l'unité en s'imposant comme étant le seul Dieu. Il n'aura égard à aucun Dieu. L'Antéchrist s'opposera à toute forme d'adoration. Il voudra être le seul objet d'adoration. Non seulement croit-il à l'œcuménisme, mais il en fait la promotion. Il cherchera à créer l'unité en s'imposant comme étant le seul Dieu. Il répétera « un monde, une religion ». Il voudra une seule religion pour l'unique monde. Il sera le Dieu de cette unique religion. Il se glorifiera au-dessus de tous. C'est là où conduiront l'entêtement et l'orgueil de ce roi méprisable. Il ne cherchera qu'à être adoré. Le régime de l'Antéchrist sera le plus tyrannique de tous. C'est l'avenir sombre qui attend les derniers jours de la grande tribulation. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse, chapitre 13. Les versets 15 à 17. Oui, chers amis, vous ne pourrez pas faire de transactions commerciales, acheter ou vendre, prendre l'avion ou un moyen de transport public sans avoir la marque de la bête. Vous n'aurez jamais vu un régime aussi tyrannique que celui de l'Antéchrist. Verset 38. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. L'Antéchrist honorera Satan, le dieu des forteresses. L'Antéchrist honorera le dieu des forteresses qui possède tous les royaumes du monde. Qui est ce dieu? Eh bien, c'est Satan qui a offert au Seigneur Jésus tous les royaumes du monde, et le Seigneur Jésus a rejeté son offre. Il semble que Satan peut faire une telle offre. L'Antéchrist acceptera cette offre et il deviendra le dictateur du monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 et dans Apocalypse chapitre 13 verset 4, nous voyons que l'Antéchrist acceptera l'adoration et qu'il obligera le monde à adorer Satan. Il règnera sur toutes les nations du monde et ce sera la première dictature véritablement mondiale. Verset 39. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Le diable aura peu de temps. Ce sera le jour de Satan. Il en profitera le plus possible, car il sait que cela ne durera pas longtemps. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. L'Antéchrist se pliera entièrement à la volonté de Satan en ce temps-là. Il règnera sur tous les peuples et il distribuera les terres comme il le voudra bien. Il sera un roi obstiné et le dernier dictateur sur la terre. Daniel chapitre 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers. Et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Notez que le texte dit « au temps de la fin » et non à la fin des temps. Dans cette section du livre, Daniel pense à la fin de la nation d'Israël, période que le Seigneur Jésus appelle la grande tribulation. Le roi du Midi est nécessairement un roi d'Égypte, mais nous ne pouvons pas l'identifier. Ce roi qui viendra au temps de la fin réussira probablement à unir toute l'Afrique du Nord, exploit qu'aucun autre chef d'État n'a réussi à accomplir. Ce roi d'Égypte se mettra en campagne contre l'Antéchrist. Le roi du Septentrion, ou le roi du Nord, est plus facile à identifier. Il remplace la dynastie des Séleucides. Et je crois qu'il est le roi venant du Nord mentionné dans les chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel. Ce royaume du Nord est la Russie. Celle-ci entreprendra la campagne d'Armageddon. Et cette campagne ne consistera pas à un combat, mais à une guerre. Dès le début, le roi du Nord sera éliminé alors que Dieu jugera cette nation. Verset 41. Il rentrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Lorsque la Russie pénétrera en Palestine, elle provoquera la plus grande crise et le plus grand conflit de la période de la grande tribulation. Lorsque l'Antéchrist entrera en Palestine, le plus beau des pays, il rencontrera de l'opposition d'Édom, de Moab et de Ammon. C'est sur ce territoire que se trouve la descendance d'Ismaël, soit les Arabes. Ces peuples causeront du trouble à l'Antéchrist. Verset 42. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. L'Égypte et le roi du Sud se soumettront à l'Antéchrist. Verset 43. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. L'Antéchrist aura la main mise sur les richesses du monde. Il contrôlera l'économie mondiale à ce moment-là. La Libye et l'Éthiopie se soumettront à lui. Il dominera sur l'Afrique. Verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Des nouvelles de l'Orient. Ce sera l'Orient avec ses populations innombrables. Une grande armée viendra de là pour participer au combat d'Armageddon. Et le chef du monde sera perturbé. À ce moment-là, il n'y aura aucun espoir pour le peuple de Dieu, sauf en Dieu lui-même. Verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit venu en aide. Les mers réfèrent à la Méditerranée, et la glorieuse et sainte montagne est Jérusalem. Autrement dit, l'Antéchrist établira son quartier général entre la Méditerranée et Jérusalem, et c'est de là qu'il voudra diriger la conquête du monde. Cependant, plutôt que de gouverner à partir de là, il sera anéanti par le retour personnel du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, les versets 17 à 20. La méchanceté règnera en maître, et seul le retour personnel du Seigneur Jésus, afin d'établir son royaume, libérera et sauvera les gens. Les signes précurseurs de l'Antéchrist sont déjà là. Il y a plusieurs positions concernant l'eschatologie et les événements des derniers temps. Je n'entrerai pas dans les détails. En fait, je ne les énumérerai même pas. Cependant, elles ont toutes une chose en commun. Elles croient à la venue d'un Antéchrist, d'une personne qui s'opposera à Dieu et à Jésus-Christ comme personne ne l'aura jamais fait auparavant. Au cours de l'histoire de l'Église, certains ont pensé que l'Antéchrist serait une religion. Cependant, la Bible indique clairement que ce sera une personne. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Seul l'apôtre Jean a employé le terme antéchrist. Il enseignait qu'il en viendrait un, mais aussi qu'il y en a plusieurs présentement dans le monde. Lisons ce que Jean enseigne au sujet de l'antéchrist. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 3. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Notez que l'Antéchrist nie le Père et le Fils. Il nie que Jésus a pris un corps humain pour habiter parmi nous. Il refuse de s'identifier publiquement à Jésus-Christ. L'Antéchrist est menteur et séducteur. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Il viendra un Antéchrist, l'homme impie, le fils de la perdition dont a parlé l'apôtre Paul. Il viendra au temps de la fin. Cependant, d'ici là, il y aura plusieurs antéchrists, des personnes qui s'opposeront à Dieu, au Seigneur Jésus, et qui renieront l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Jésus soit Dieu fait chair. Nous voyons aujourd'hui des signes précurseurs de l'antéchrist. Je cite surtout des exemples canadiens, puisque ces émissions à travers la Bible sont traduites et adaptées au Québec, Canada. Cependant, je suis certain que les auditeurs de plusieurs autres pays peuvent citer des cas semblables. Une institution chrétienne en Colombie-Britannique ne peut plus émettre de diplôme d'enseignant, car on craint qu'elle forme des enseignants préjugés contre certains groupes de la société, tels la communauté homosexuelle. De plus en plus souvent, nous entendons l'expression « intégriste chrétien » dans les médias. Nous savons tous que plusieurs associent le fanatisme et la violence à ce mot. On s'oppose aux symboles religieux dans les écoles et dans les endroits publics. Mais en fait, ce sont surtout les symboles chrétiens, tels le crucifix et la Bible, que l'on retire. Certains ont droit au voile islamique, d'autres au port du kirpan. On parle d'accommodement raisonnable, mais ceci semble se faire à sens unique. Nous remarquons une opposition de plus en plus remarquée à tout ce qui est chrétien. Un juge de Toronto a fait déplacer un petit arbre de Noël d'un endroit où il était bien visible pour le faire mettre dans un endroit plus isolé. Cet arbre rappelait trop Noël, une fête chrétienne. Lors des élections, si les candidats se prononcent en faveur des valeurs morales judéo-chrétiennes, leurs opposants suggèrent que ce sont des personnes malsaines à avoir à la Chambre des communes. Vouloir vivre selon les valeurs morales traditionnelles, fondées sur le christianisme, est maintenant présenté comme n'étant pas la chose la plus désirable. Un musée du Saguenay a exposé des Bibles, et des gens ont demandé que les livres soient retirés car ils parlaient du péché. On s'objecte à ce que l'on fasse une prière avant la réunion d'un conseil municipal. Vu que ces prières sont brèves, pourquoi une personne non-croyante se sent-elle obligée de les faire interdire? Un de mes amis donnait des cours d'appoint et de l'aide aux devoirs à des élèves du primaire et du secondaire. Parmi ses clients, il avait une jeune fille qui faisait ses études secondaires. Un jour, il a reçu un appel d'un agent de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. Il enquêtait au sujet de cette jeune fille. Son enseignante avait demandé aux élèves de sa classe de faire une production écrite qui traitait de l'ésotérisme et du spiritisme. Puisque le sujet allait à l'encontre de sa foi chrétienne, elle a demandé à son enseignante la permission de faire son travail de français sur un autre sujet. Les autorités scolaires ont présumé faussement qu'elle pouvait venir d'une famille qui la maltraitait. Ils ont fait un rapport à la DPJ, ce qui explique l'appel de l'agent. Cependant, heureusement pour elle et sa famille, l'enquêteur s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessité d'intervenir. L'incident démontre tout de même des préjugés graves. Si un adolescent musulman, un sikh, juif orthodoxe, aurait fait la même requête que cette jeune fille, on se serait empressé d'en arriver à un accommodement raisonnable. Parce qu'elle était chrétienne, on en a fait un rapport à la DPJ, sans avoir aucune raison valable d'agir ainsi. Mes amis, les gens se détournent de Dieu et le rejettent complètement. Depuis 2 décennies, nous voyons des services funéraires où l'on ne mentionne même pas Dieu ou quoi que ce soit de religieux. Il n'y a pas si longtemps de cela, une telle chose aurait été inconcevable. Plus les gens se détournent de Dieu, plus l'hostilité contre les croyants augmente. Mes amis, la situation ne s'améliorera pas. Il a toujours fallu payer un prix pour s'identifier à Jésus-Christ, et ce prix deviendra de plus en plus cher. Ne soyons pas étonnés si nous sommes persécutés ouvertement avant longtemps. Priez-vous pour votre gouvernement, afin que nous menions une vie paisible? L'apôtre Paul a dit aux croyants, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. L'apôtre Paul et les chrétiens de son époque ont connu la persécution. Cette persécution provenait parfois des autorités du gouvernement. Priez-vous pour votre gouvernement, afin que nous menions une vie paisible. Il est plus urgent que jamais d'observer cette exhortation de l'apôtre Paul. À quand remonte la dernière fois que vous avez prié pour votre gouvernement fédéral, pour votre gouvernement provincial, pour votre gouvernement municipal? Mes amis, lorsque nous lisons le livre des Actes et les lettres de Paul, nous observons que les croyants éprouvaient de la joie, et ce malgré la persécution et la souffrance. Tous les êtres humains souffrent à divers degrés et d'une façon quelconque. Maladie, accident, mort d'un être cher ou d'un ami, guerre, problèmes économiques, injustice, solitude. Les apôtres et les premiers chrétiens ont eu leur part de souffrance parce qu'ils étaient persécutés. Cependant, ils éprouvaient une joie. Cette joie provenait de leur relation personnelle et intime avec Dieu. Mes amis, avez-vous reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. Oui, chers amis, glorifions Dieu en recevant son Fils comme sauveur personnel et en goûtant la joie d'une relation avec lui. C'est ce qu'il est venu offrir à l'humanité, à chacun d'entre nous, à vous qui écoutez cette émission, une offre personnelle de le recevoir comme votre sauveur. Chers amis, préparons-nous à notre prochaine émission en lisant Daniel chapitre 12, les versets 1 à 13. Bonne lecture à tous.
Merci, Régent. Mes amis, Régent nous a beaucoup parlé de l'Antéchrist aujourd'hui. C'est curieux, mais en 1977, l'année où je suis devenue une enfant de Dieu, je n'avais pas encore entendu parler de l'Antéchrist. Je n'ai donc jamais eu peur de ce personnage qui viendra sûrement sur cette terre pour faire les ravages dont Régent nous a parlé. La raison pour laquelle je n'ai jamais eu peur, c'est qu'en apprenant son existence et tous les pouvoirs qu'il exerçait contre les croyants, j'ai aussi appris à quel point j'allais être à l'abri, à l'ombre des ailes de Dieu. Quel réconfort! Mes amis, je ne sais pas s'il paraîtra de mon vivant, mais je sais une chose, le Seigneur me protégera contre lui. Cet impie sera puissant, mais mon Dieu est tout-puissant, et il prendra soin de moi comme il le fait aujourd'hui. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a des antéchrists sur la terre présentement, des personnes qui cherchent à enlever toute forme de christianisme dans les écoles, dans les gouvernements et dans divers organismes. C'est pourquoi Régent a mentionné l'importance de la prière. Permettez-moi de répéter les trois versets que Régent a cités dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, des versets 1 à 3. C'est Paul qui dit ceci aux croyants. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Afin que nous menions une vie paisible. Et toi, mon ami, est-ce que tu mènes une vie paisible dans ce monde où il y a déjà plein d'agitation? Si tu es un croyant, je t'encourage à prier, afin que nos gouvernements continuent à nous laisser la liberté de lire la parole de Dieu, de la pratiquer, de l'entendre prêcher dans nos églises, ainsi qu'à la radio, à la télé. Mais puisqu'il y a déjà des antéchrists qui travaillent contre cette liberté, je crois qu'il est bon que nous prions, afin que, peu importe ce qui nous arrivera, nous puissions demeurer dans cette paix qui surpasse toute intelligence, celle qui nous vient de la foi en Jésus seul. Et toi, mon ami, si tu n'as pas encore cette paix qui vient de Jésus, tu pourrais la recevoir aujourd'hui, en ce moment même. Tu n'as qu'à reconnaître que ce qui t'empêche d'avoir la paix, c'est le péché. Puisqu'on est tous des pécheurs, selon la Bible, selon la parole de Dieu, eh bien, mon ami, le péché nous empêche d'entrer en relation avec Dieu. Mais dans son amour, il est prêt à te pardonner. Il a payé la dette de ton péché en envoyant Jésus sur cette terre. Et Jésus a payé ta rançon en mourant sur la croix. Avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Il a tout accompli pour t'offrir la paix, pour t'offrir le don gratuit de la vie éternelle. Alors demande pardon à Dieu. Demande à Jésus de te sauver, de te donner cette vie éternelle. Tu pourras expérimenter ce que le psalmiste dit dans le psaume 91. « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Alors reçois Jésus comme ton Sauveur, reçois-le comme ton Seigneur.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais... Toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.